15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo. Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout, nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré au régime flexible. C'est très tendance en ce moment. La nutritionniste Sarah Dudouamoni viendra nous parler de son guide pratique pour nous aider à consommer moins de produits animaux et à rétablir un bon équilibre alimentaire dans notre assiette. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour aujourd'hui. Il va nous parler des bébés et de pourquoi il n'est finalement pas très bon du tout de les laisser pleurer. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler d'un examen d'imagerie assez courant, la radiographie, qu'on peut passer pour confirmer une fracture par exemple. Comment ça marche? Est-ce que c'est irradiant comme examen? Enfin, vers 15h50, la chronique, vous attendez tous, la chronique sexo de l'émission, avec Catherine Blanc, notre sexologue aujourd'hui. Il sera question de fantasmes.
Mélanie Gomez vous reçoit Sans Rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première, c'est celle de Sophie, on l'écoute.
Bonjour docteur Jimmy Mohamed, bonjour Mélanie. Je me posais une petite question au sujet des taches blanches qu'on a parfois sur les ongles. Est-ce qu'il s'agit d'un manque de calcium ou autre chose? D'avance un grand merci, au revoir.
Alors Jimmy, les taches blanches sur les ongles, effectivement c'est quelque chose d'assez courant. Moi quand j'étais petite, on me disait que c'était parce que je manquais de calcium. Mais c'est peut-être juste pour me faire boire du lait que ma mère me disait ça.
Eh oui, c'est une supercherie, une arnaque, oui, je suis désolé de vous l'avouer.
Je me suis fait avoir pendant des années.
Oh, mais on m'a aussi menti, parce qu'on m'a aussi dit ça pour me faire culpabiliser de ne pas prendre suffisamment de produits laitiers. Mais c'est faux. En fait, ces décolorations, on appelle ça des leukonychies.
Leukonychies, ouais, on dirait un truc japonais.
Ouais, exactement, non, c'est sympa, c'est moche, mais c'est sympa. Ouais. Et, en fait, ça correspond donc à cette décoloration. Et elle peut toucher un ou plusieurs ongles. Et ça peut toucher soit tout l'ongle. Dans ces cas-là, c'est souvent révélateur d'une pathologie chronique. Mm-hmm. Ou en partie avec soit des bandes striées, soit des petits points. D'accord. Mais en règle générale, c'est plutôt bénin.
Et si ce n'est pas provoqué donc, par un manque de calcium, ça c'est un mensonge, on l'a compris. Qu'est-ce qui peut causer du coup ces taches?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, un ongle, c'est formé d'une petite partie toute blanche. Mm-hmm. Qu'on appelle la lunule, qui est vraiment toute petite.
Qui est près
petite,
du doigt,
exactement,
en fait.
Hein, qui est près du doigt. Puis à 90%, on a la partie rosée, colorée. Et sous cette partie se trouve ce qu'on appelle la matrice. La matrice, c'est ce qui permet de créer l'ongle au travers de synthétise de la kératine. Lorsqu'on a plusieurs couches de kératine, on obtient l'ongle. Et lorsque cette kératine est atteinte par des micro-traumatismes, des petits coups, eh ben ça donne ces taches blanchâtres, car finalement, la pousse se fait moins bien. Donc, ces petites taches blanchâtres qu'on a, eh ben c'est simplement le résultat de traumatismes et absolument pas une carence
c'est
en calcium.
Bon, là, ça fait vraiment. Je suis déçu. Moi, je pensais que c'était un truc plus grave.
Pchit.
Mais c'est juste des petits coups comme ça qu'on se donne sur les ongles et basta.
Oui, c'est pas forcément des coups de marteau que vous allez recevoir, évidemment.
Là, c'est un bleu en général.
Ouais, exactement, c'est différent. Mais simplement, le fait, par exemple, de faire une manucure de façon un peu intensive et régulière.
Ah, comme vous, oui, c'est ça.
Oui, exactement. Ouais, je prends soin de mes ongles.
C'est pour ça que vous avez une petite tache blanche.
Exactement. Et ben forcément, ces petits mouvements répétés de micro-traumatismes peuvent entraîner ces petites taches blanches. Bref, c'est que des traumatismes et rien de méchant.
Bon, donc c'est jamais grave en fait.
Non, en revanche, il faut être prudent. Lorsque ça touche tous les ongles, lorsque, je vous ai dit tout à l'heure, ça atteint l'intégralité de l'ongle, ça peut être révélateur de pathologies sous-jacentes. Alors déjà, il peut y avoir ce qu'on appelle un psoriasis inversé, donc une forme d'eczéma qui peut donner ces atteintes-là. On peut avoir des mycoses aussi au niveau de l'ongle. Mm-hmm. Et puis, il y a des pathologies un peu plus rares, mais un peu plus graves, comme l'insuffisance rénale et la cirrhose.
Ongles,
ça peut être révélateur à ce moment-là, mais encore une fois, on a d'autres symptômes.
Mais ce n'était pas les petites taches blanches dont on parlait dans cette question-là. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Laure. On l'écoute.
Oui, bonjour, docteur Mohamed. Je vous ai déjà entendu parler dans une émission précédente de la palpation des seins. Du coup, je voulais savoir comment je pouvais le faire, quels sont les gestes. Voilà. Merci beaucoup.
Alors Jimmy, c'est vrai que on parle souvent de palpation là ce mois-ci puisque c'est le mois d'octobre, le mois de sensibilisation autour du cancer du sein. On a conseillé souvent aux femmes dans son rendez-vous de s'auto-palper régulièrement, mais comment on doit s'y prendre en fait? Il y a une technique?
Oui, alors faut faire ça tous les mois à partir de 20 ans, c'est pas mal, et au moment des règles, mais quelques jours après. Est-ce que vous savez pourquoi on fait ça quelques jours après?
Bah pendant les règles, ils sont un peu douloureux,
un peu gonflés, donc à ce moment-là, c'est plus difficile
d'éventuellement sentir des petites choses qui sont rien en
fait. Exactement. Donc il faut le faire à intervalles réguliers.
Après les règles, non ?
Exactement, après les règles. Et la première des choses, c'est déjà de s'inspecter. Mmh. On se met face à un miroir, les bras le long du corps, et puis on lève les bras et on regarde l'aspect du sein, la couleur, la texture, le mamelon, s'il y a un écoulement, et puis ensuite, s'il y a quelque chose, on consulte, et ensuite, on passe à la palpation.
Et donc, une fois qu'on a fait cette inspection visuelle, on palpe. Mais alors là, on palpe comment ? Du coup, on se touche avec le bout des doigts,
alors,
j'imagine.
Il faut diviser le sein en quatre, quatre quarts, et chaque quart, il faut le palper avec trois doigts.
Comme une horloge, un peu.
Exactement. Tac, 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 tac. Exactement. Ouais. Et on fait des petits mouvements circulaires ronds pour vraiment palper toute la surface.
Les trois doigts du milieu, par exemple.
Exactement, hein, les trois doigts suffisent largement. Et on fait un sein puis l'autre, cadran par cadran, et on fait des petits mouvements de rotation.
Ça ne prend pas des heures non plus,
non,
hein, c'est quelques minutes.
Moins de 5 minutes. Mmh. Et on n'oublie pas de palper sous les aisselles à la recherche de petits ganglions qui devraient faire consulter.
Rapidement, justement, si en touchant, on sent quelque chose, c'est quoi les signes qui doivent alerter, justement ?
Alors, toute anomalie de la palpation doit vous faire amener une consultation, médecin généraliste, sage-femme ou gynéco, parce que ça ne veut pas forcément dire que vous avez une maladie grave, on ne parle pas tout de suite de cancer, mais si jamais il y a quelque chose, le fait de le diagnostiquer plus tôt, en règle générale, si la femme
c'est
jeune,
bénin,
c'est plutôt un petit kyste pas méchant, et bien dans ces cas-là, on fait une échographie, au moindre doute, une mammographie, on est rassuré ou au contraire, on engage des examens pour éventuellement vous traiter.
Et bien sûr, par contre, le dépistage pour les femmes de 50 à 74 ans, ça aussi, ça reste indispensable.
Ça ne remplace pas, remplace pas effectivement ce dépistage, mais néanmoins, c'est concernant les populations avant 50 ans où on ne fait pas de mammographie systématique. Et encore une fois, on l'avait dit, on ne fait pas des mammographies tous les 2 ans ou tous les ans
à
quand on a 25 ans.
Ça ne sert à rien.
Ça sert à rien. On se palpe d'abord les seins et si besoin, on consulte.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Laure qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous expliquer pourquoi il ne faut pas laisser pleurer les bébés. Et puis, on accueillera aussi notre invitée, la nutritionniste Sarah Dudouamoni, pour parler du régime flexitarien. Elle va nous donner des conseils pour arriver à consommer moins de produits animaux, tout en gardant un bon équilibre alimentaire. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
De vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité dans quelques minutes, la nutritionniste Sarah Dudouamoni, pour parler du flexitarisme. C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez des bébés et surtout de leurs pleurs. Hein. Vous y connaissez un rayon là-dessus, vous avez trois bombins. Que se passe-t-il quand on laisse un bébé pleurer ?
Alors déjà, un bébé qui pleure, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a pas le même cerveau que le nôtre. Son cerveau est immature, et notamment le lobe frontal, qui fait qu'il n'est pas capable de gérer ses émotions. Et un bébé qui pleure, c'est un bébé qui a besoin de quelque chose, et même quand il est propre, qu'il a mangé, que tout va bien, eh ben, si on le laisse pleurer, c'est source de stress. Et à ce moment-là, lorsque ce stress arrive, son corps est inondé d'hormones, et sur le long terme, ça peut avoir un impact sur le développement de son système nerveux central et sur les acquisitions futures. Donc, en pratique, on ne laisse pas pleurer un bébé parce que non seulement ce n'est pas pédagogique, et ça peut avoir un vrai impact.
Mais est-ce que les bébés ne s'habituent pas à un moment donné lorsqu'on les laisse pleurer ? Parce qu'on dit souvent, les bébés notamment qui ne font pas leur nuit, laisse-le pleurer, tu verras, il va finir par dormir.
Exactement, c'est ce qu'on dit.
J'ai même testé un peu, j'avoue. Hein,
ouais,
mais, bon.
Mais oui, mais ce n'est pas terrible. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le chef de service de médecine psychosomatique de l'hôpital pour enfants de l'université de Munich. Donc, c'est du sérieux tout ça.
Ah ouais,
hein, c'est pas le docteur
Jimmy
Mohamed. Il explique que les parents qui laissent pleurer leur enfant, les enfants apprennent très tôt à déclencher un programme d'urgence dans leur cerveau très similaire au réflexe de Thanatos, observé chez les animaux dont la vie est menacée.
Thanatos, ça veut dire
à simuler la mort.
Oh là là, oui, d'accord.
Et donc à ce moment-là, l'enfant, il est en stand-by, il s'arrête de pleurer, mais le problème, c'est que le développement cérébral en est affecté et à ce moment-là, ils ne peuvent plus apprendre à s'adapter au stress.
Et vous disiez que donc, ça peut avoir des conséquences au niveau cognitif, au niveau cérébral, mais est-ce que ça peut avoir des conséquences du coup à l'âge adulte ensuite ?
Oui, exactement. Les bébés qu'on laisse pleurer peuvent être traumatisés. Le manque de réaction de leurs parents signifie tu peux pleurer autant que tu le veux, de toute façon, personne ne viendra. Et à ce moment-là, ça peut être source de troubles affectifs plus tard, avec des troubles du sommeil, des troubles de l'anxiété, des troubles liés à la dépendance, des symptômes dépressifs, et donc bref, des gens, des adultes en moins bonne santé.
Je suis sûre que les bébés de Jimmy ne doivent pas pleurer beaucoup.
Ah non,
chez
ils pleurent jamais, non, c'est une angoisse, bien sûr, au bout de 30 secondes, et voilà.
Et donc la clé du succès, c'est quoi ? C'est les câlins, alors ?
Eh oui, toutes les études ont montré que les contacts affectueux et attentifs sont bons pour le développement. Une autre université que je connais très bien, celle de Notre-Dame aux États-Unis.
Ah, bien sûr.
Exactement. Et ils sont aperçus que plus les enfants étaient cajolés, plus on répondait à leurs pleurs et plus ils étaient en bonne santé. Et à ce moment-là, on a trié 600 adultes et on s'est rendu compte qu'ils avaient une meilleure capacité d'empathie, nettement plus productive que les autres et que ceux qui avaient souffert d'un manque d'attention. Donc le meilleur conseil qu'on peut donner aux parents, c'est d'écouter leur instinct, de ne pas laisser pleurer le bébé pour rien et surtout de s'occuper d'eux, de les cajoler en règle générale. Ils pleurent moins car un enfant dont on répond, auquel on répond aux pleurs, eh ben, pleure moins que les autres.
D'accord, docteur Jimmy Mohamed, voilà. Docteur câlin aujourd'hui.
Exactement, c'est la calinothérapie, ça fait
merci
du bien tout le
monde. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Et donc tout de suite, nous accueillons notre invitée pour le dossier du jour, c'est la diététicienne nutritionniste Sarah Dudouamoni. Elle vient de publier, vous avez dit, Flexitarien aux éditions Erol.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Sarah Dudouamoni.
Bonjour.
Alors, votre livre, c'est un guide pour ceux qui souhaitent basculer vers une alimentation plus végétale et manger moins de viande et de poisson. Donc, d'abord, en France, où est-ce qu'on en est, en fait, finalement? Est-ce qu'on n'a pas déjà un petit peu diminué notre consommation de viande, déjà aujourd'hui?
Je rencontre beaucoup de personnes au cabinet ou en entreprise dans laquelle je travaille qui mangent beaucoup moins de viande qu'avant.
Il y a des chiffres qui le prouvent pour les Français en général?
On est à peu près 9% aujourd'hui de flexitariens, mais 45% qui ont envie de l'être.
D'accord.
Et quand on analyse un petit peu la façon dont les personnes mangent, naturellement, en ce moment, ils vont vers le flexitarisme.
Jimmy ?
Mais du coup, est-ce qu'au contraire, ils mangent plus de produits végétaux ? Est-ce qu'on en consomme plus ? Ou juste on ne compense pas et puis on mange moins, peut-être plus de bêtises ou de cochonneries ?
Ils mangent beaucoup plus de végétaux, plus de légumes, plus de céréales, plus de légumes secs.
Il y a une étude du Crédoc qui montre ça.
Exactement.
Je crois que ça a été prouvé, on a étudié la population française et on voit ça depuis Barap. Quand est-ce qu'on a basculé finalement?
Ça fait 4 à 5 ans que je remarque qu'il y a vraiment un changement d'attitude et que les personnes ont envie de plus de naturel, de plus de végétaux justement. Ils font très attention à la qualité aussi, de plus en plus, la qualité de ce qu'ils souhaitent manger. C'est-à-dire que quand ils vont consommer de la viande, du poisson, ils vont être plus exigeants qu'auparavant. Mmh. Et il y a une étude justement du WWF qui montre qu'on est à peu près à plus de la moitié qui font maintenant attention à la qualité de l'aliment en essayant d'acheter labellisé, label rouge par exemple, le poulet, les œufs.
Le régime flexitarien en lui-même, c'est quoi? Enfin, il y a une définition qui existe, ça veut dire quoi être flexitarien précisément?
Alors, il y a une définition qui est sortie cette année, au Larousse Illustré. C'est le mode d'alimentation qui est principalement végétarien, mais qui inclut occasionnellement de la viande ou du poisson.
D'accord.
Occasionnellement, c'est combien de fois par semaine? Parce qu'il faut qu'on donne des chiffres un peu aux gens pour
avoir
des repères.
Oui, bien sûr. Occasionnellement, on va dire que dans l'étude justement que j'avais lue du WWF, on était à peu près à 4 fois par semaine de la viande ou du poisson.
Ah, quand même, ça reste
pas mal.
Ouais, ça reste une bonne consommation de viande quand même.
Voilà, mais ça peut être selon. Je pense que c'est un mode de vie plus qu'un régime. Donc là, il faut vraiment s'écouter. Il faut faire ce dont on a envie. Ne pas avoir de dogme, de diktat et vraiment suivre le ressenti, les moments où on a envie d'en manger, les moments où on souhaite garder du végétal.
On va rentrer dans un instant dans le détail. Merci Sarah Dudouamoni, on poursuit cet entretien. Dans un instant, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on passe donc à la pratique. Notre invitée propose une transition vers une alimentation plus végétale avec un programme sur 4 semaines. Elle nous donnera tous ses conseils, ses astuces et même quelques recettes. Prenez note, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé et Bien-être. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invitée, la diététicienne nutritionniste Sarah Dudouamoni, avec qui on parle aujourd'hui du régime flexitarien. Alors d'abord, est-ce qu'un régime flexitarien, ça peut faire courir un risque à la santé si jamais on le met en place comme ça brutalement sur le plan nutritionnel, il peut y avoir des problèmes?
Alors, ce n'est pas le fait de le mettre brutalement ou pas, c'est plutôt il y a des règles à suivre pour justement ne pas avoir de déficience, notamment en protéines, puisque notre corps ne stocke pas les protéines. Donc, il faut savoir reconstituer une protéine végétale. Donc, le guide explique justement comment reconstituer une protéine végétale avec quelles céréales et quels légumes secs. En fait, une part de viande, poisson ou œuf contient en moyenne 18% de protéines. Et quand on fait cette association de céréales et de légumes secs, on peut monter même un petit peu au-dessus, parce qu'on est environ à 22%.
Ah oui. Donc on peut y arriver effectivement, en associant deux végétaux finalement.
Voilà, c'est ça. Mais par contre, il faut faire attention à plusieurs choses. Il faut faire attention au fer. Il peut y avoir du coup des déficiences en fer, au zinc, à la vitamine D, à la vitamine
B12. Justement, pardon, sur le fer, en fait, comment est-ce qu'on fait? Parce que le fer d'origine végétale n'est pas tout à fait le même, de même qualité,
moins bien
on va dire,
assimilé,
que,
ouais.
Voilà, bien assimilé que le fer d'origine animale. Vous avez un conseil qu'on pourrait utiliser pour éviter une carence en fer?
Bien sûr. Alors, je vous donne un exemple. Il faudrait par exemple arroser de jus de citron le plat que l'on va déguster, puisque la vitamine C va permettre de mieux délivrer le fer du repas.
Ah, sur quoi, par exemple, on peut mettre de la vitamine C, du goût du citron, comme ça. Qu'est-ce qu'on peut manger qui est déjà un petit peu riche en fer, en végétal, et sur quoi on peut mettre du citron, qui ça va encore plus mieux permettre de l'absorber?
On pourrait le faire sur une petite soupe un petit peu à la thaïlandaise, avec des haricots blancs, un petit peu de riz.
Il y a du fer déjà là-dedans ?
En fait, il y a du fer, mais il faut pouvoir l'extraire, justement. Les légumes secs ont du fer, mais comme le disait le docteur, il faut pouvoir l'extraire plus facilement.
Et le citron, ça aide
et
à ça.
Et le citron, la vitamine C aide à monter en délivrance de fer.
Et parce qu'effectivement, là où c'est le plus riche en fer, c'est quand même, ça reste la viande, hein, c'est ça ? On est d'accord ? La viande rouge, surtout, dans laquelle il y a beaucoup de fer ?
Oui, c'est ça. Dans la viande rouge, encore que les autres viandes et le poisson en contiennent également.
Parce que ça sert bien à quelque chose quand même de manger de la viande et du poisson. Je veux dire, on en mange depuis la nuit des temps. Ça contient quoi, ces protéines animales, là, quand on en consomme régulièrement ou trop souvent aujourd'hui? Ça contient quoi qui nous est indispensable quand même?
Mais justement, cette vitamine B12 et le zinc.
D'accord.
Par contre, on trouve ces vitamines également dans ce qu'on appelle les sous-produits animaux. Et dans le régime flexitarien, comme on est la plupart du temps végétarien, on consomme des œufs qui vont en contenir justement, hein, du fromage. Donc on peut retrouver également le zinc dans ces aliments-là.
Et en ce qui concerne la vitamine B12, celle-ci, normalement, on la trouve, sauf erreur de ma part, que dans la viande. Mais si on supprime la viande, ou finalement on en mange très peu, on risque d'être carencé, non?
Mais justement, le mode de vie flexitarien va faire que de temps en temps, on va introduire, quand on est invité ou parce qu'on en a envie, des produits. Voilà, des produits
d'exemple. Ça. Mais ça suffira une fois de temps en temps, une fois par semaine?
Alors, dans les retours que j'ai eus, après, je pense qu'il faut être face à un principe de réalité. Le principe de réalité, c'est quoi? C'est la prise de sang. Au bout de 6 mois, on suit un régime flexitarien et on voit où on en est.
Il faut faire un point quand même.
Alors, quand les personnes mangeaient à peu près 3 fois par semaine, soit du poisson, soit de la viande ou un mixte des deux, elles n'avaient pas ces déficiences-là.
Et c'est grave de manquer de B12, ça peut être
B12,
grave. B12,
bien sûr.
Ça risque, risque
tout
quoi
à fait. On ne peut plus fixer le fer.
Ah, voilà, encore une fois, oui, on y revient au fer. D'accord, et donc du coup, comme demandait Jimmy, en mangeant une fois par semaine de la viande, ça devrait aller
Une fois par semaine de la viande, une fois par semaine du poisson, une fois par semaine de l'œuf, ça suffit en fait.
D'accord, et sur la prise de sang, de toute façon, si on voit qu'il n'y en a pas assez, il y a aussi, ça existe la supplémentation en B12, hein,
exactement,
c'est ça?
Tout à fait.
Jimmy?
Et si on veut faire ce changement, passer vers un mode flexitarien, est-ce qu'il y a un moment où on devrait le commencer? Est-ce qu'on fait ça plutôt pendant les vacances, ou on peut faire ça, allez, le lundi, on reprend le travail et on y va?
Je pense qu'il faut juste mener une réflexion. Après, si on est en famille, peut-être poser les choses tranquillement autour de la table. J'ai eu beaucoup de personnes un petit peu inquiètes qui sont venues me voir parce que leurs enfants ne voulaient plus rejeter la viande.
Les ados, parfois.
Les ados,
moment,
voilà, en ce moment. Et le fait de poser les choses, de réfléchir tranquillement, ensemble, comment faire pour introduire certaines journées végétales, c'est bien de le faire en vacances, justement, en ce moment.
Parce que votre programme, et vous le dites dans votre livre, ça s'anticipe de devenir flexitarien. Comme
ça s'anticipe, oui.
Imaginons, j'ai décidé de le faire la première semaine, on prévoit tout à l'avance. Hein, on va faire quoi? On va faire les courses?
On va faire les courses, on va réfléchir au menu. C'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai introduit 4 semaines d'accompagnement avec des menus et des recettes.
Et si on est convaincu justement par ce régime alimentaire, donc à baisser sa consommation un petit peu de produits animaux, on doit convertir de force toute la famille, les enfants compris?
Non. Non, je pense qu'il faut rester ouvert, c'est un cheminement personnel. Donc je conseille, si les enfants n'en ont pas envie, justement de leur offrir des journées où ils vont manger de la viande, du poisson,
même si nous on n'en mange pas, c'est ça.
Voilà, hein, ouais. Et puis tranquillement, à un moment donné, ils vont avoir envie de suivre un courant ou un autre.
Vous, on vous a obligé petite, hein, vous êtes née dans une famille végétarienne, je crois, et vous avez fait le chemin inverse, hein, c'est ça?
Alors, c'est pas qu'on m'a obligée, c'est que j'ai vécu dans une famille végétarienne, et quand ça fait des décennies qu'on mange végétarien, quand je suis invitée, je vais avoir plaisir à partager avec d'autres convives ce qu'on va m'offrir à table. Donc le chemin vers le flexitarisme me semble plus ouvert, plus naturel. Et d'ailleurs, c'est ce que mes parents ont fait aussi. Ils ont évolué par rapport à ce qu'ils faisaient au départ.
Alors Sarah Dudoit-Mauny, on va poursuivre cet entretien dans très peu de temps. Vous restez avec nous. Europe 1. Dans un instant, on débute vraiment la transition vers le régime flexitarien. Un régime où l'on mange moins souvent de viande et de poisson et dans lequel on privilégie tout ce qui est végétal au quotidien. On vous donnera plein de conseils à appliquer chez vous pour faire vos courses et même quelques recettes, notamment celle du chili sin carne. Un chili sans viande, c'est vraiment délicieux, j'ai testé ce week-end. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invitée, la diététicienne nutritionniste Sarah Dudouamoni, qui nous aide aujourd'hui à diminuer notre consommation de viande au quotidien et sans danger pour notre santé. Alors Sarah, vous allez continuer à nous donner tous vos conseils pour basculer vers cette alimentation plus végétale au quotidien. Mais d'abord, quels bénéfices on peut en attendre pour notre santé finalement, très concrètement ?
Alors concrètement, justement, déjà pour les organes que j'appelle vitaux, c'est-à-dire le cerveau et le cœur, la peau, pour les yeux, enfin, il y a énormément de, en fait, de parties de notre corps qui vont pouvoir en bénéficier.
Pourquoi concrètement ?
Alors pourquoi ? Déjà, le fait de manger plus de légumes, de fruits, et comme le régime flexitarien permet de manger moins de produits animaux, c'est-à-dire de viande ou de poisson, on va pouvoir monter en qualité sur les fruits et les légumes, puisqu'on fait des économies d'un côté.
Ah oui.
Et la qualité va faire qu'il y a une plus grande densité nutritionnelle dans le bio, hein, c'est reconnu. Donc presque une fois et demie plus dense nutritionnellement, beaucoup d'antioxydants, donc ça empêche notre cerveau de s'oxyder. On va pouvoir aussi...
On vieillit moins vite.
Voilà. Agrémenter nos plats de ce qu'on appelle les fruits oléagineux, puisqu'auparavant, l'homme, il se promenait, hein, au temps des Cro-Magnons, il allait chercher
des
petites
amandes, baies, des noix,
voilà, les amandes, les noix.
Jimmy le fait encore, mais...
le week-end, j'en ferai aussi.
Et quand on regarde la noix, c'est la signature de la nature, c'est un mini-cerveau. Il y a tout dans la noix pour que, justement, le cerveau fonctionne bien.
Ah oui, c'est vrai qu'on dit souvent que les fruits ou légumes qui ressemblent à une partie du corps auraient un bénéfice.
J'avais jamais pensé que ça ressemble
exactement.
Au cerveau, mais c'est
ah
vrai.
Oui, c'est vrai.
Et du coup, on a le bon gras, on va avoir toutes les vitamines pour que le cerveau fonctionne
moins
mieux.
Moins de cholestérol, peut-être.
Et justement, on va réduire les produits animaux qui contiennent un petit peu beaucoup, ça dépend aussi si on en mange beaucoup, mais
quel produit animaux,
ce qu'on appelle des acides gras saturés pour remplacer par du bon gras. Le bon gras des huiles végétales, justement l'huile de noix. Et là, le cerveau, il marche vraiment mieux. La mémoire, elle fonctionne mieux. Donc ça, c'était pour le cerveau qui est constitué quand même d'une grande partie de gras.
Et oui.
Le cœur, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des dépôts de cholestérol, on va avoir...
Ça va circuler mieux.
Tout ça va circuler mieux. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir des huiles de meilleure qualité végétale qu'on va rajouter souvent après cuisson. Des huiles d'olive, des huiles de
pourquoi
noix.
Pourquoi après cuisson ? Vous dites qu'il ne faut pas faire cuire, il faut la mettre plutôt à la fin, le filet d'huile d'olive
mieux,
ou le filet de colza.
Il vaut mieux mettre à la fin, exactement, parce que comme ça, on garde les qualités, on garde la longue chaîne moléculaire qui fait que, justement, les membranes de tout notre corps, de toutes nos cellules, fonctionnent beaucoup mieux.
Quand
sont
ça
plus
cuit,
élastiques.
On perd ça, hein, c'est ça ?
Voilà,
quand ça cuit,
on perd les qualités.
Jimmy ?
Et j'ai appris que certains légumes pouvaient nous aider à dormir, à mieux dormir. Alors, c'est vrai, dans un contexte où tout le monde a des troubles du sommeil.
Il veut savoir lesquels, tout de suite.
Lesquels on peut conseiller parce qu'ils contiendraient de la mélatonine. Je dois vous avouer que je n'étais pas au courant. Donc, lesquels il faudrait manger, là, quand on a des petits troubles du sommeil ?
Mais justement, les noix et les tomates. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce mode de vie flexitarien, c'est que comme il y a beaucoup plus de prébiotiques, et prébiotiques, c'est quoi ? C'est toutes les fibres contenues dans les légumes et dans les fruits, il va y avoir l'intestin qui fonctionne mieux et ne pas oublier que c'est dans notre ventre, dans notre intestin qu'on fabrique cette fameuse sérotonine.
Et oui.
Humeur positive.
Notre deuxième cerveau, nos intestins.
Voilà,
c'est ça,
la joie.
Parce que nous, on a une obsession ici, c'est le microbiote.
On en parle quasiment à chaque émission, je pense qu'on parle du microbiote.
Oui, à chaque fois qu'on a un spécialiste qui vient nous parler d'une pathologie, et on parle du microbiote, et donc bien manger, être flexitarien, peut-être qu'on pourrait améliorer ce microbiote ?
Exactement, puisqu'on a beaucoup plus de matières premières, de prébiotiques, qui vont permettre de fabriquer cette fameuse sérotonine, qui est le neurotransmetteur humeur positive, c'est-à-dire la joie. Hein.
Un bon microbiote, c'est aussi être de meilleure humeur. C'est
exactement.
Un bon antidépresseur, en fait, finalement,
exactement.
Naturel.
Naturel, mais il ne faut pas oublier que ce neurotransmetteur, c'est aussi celui de la satiété.
Ah.
Donc, les personnes vont être rassasiées, mais de meilleure manière, vont avoir moins de compulsions. Et cette fameuse sérotonine, on rejoint la question du début, ça va permettre de fabriquer plus de mélatonine, donc de mieux dormir.
D'accord.
Ne pas oublier qu'une viande mangée le soir contient de la tyrosine, qui est un acide aminé qui énerve en fait, puisque c'est avec ça qu'on fabrique la noradrénaline, ça énerve.
Ah oui, alors, donc, mieux manger quand on mange de la viande plutôt le midi alors que le soir.
Plutôt le midi, exactement. Donc le fait de lever le pied juste le soir, ça va améliorer le sommeil.
Alors moi je ne vous cache pas que c'est l'hiver, donc il fait froid, oui. Donc j'ai envie de manger un peu plus que d'habitude.
Un bœuf bourguignon.
Ouais, un bon truc, un peu en sauce, voilà, bien gras, on va pas se mentir, il fait froid. Bon, la soupe, bon, ça va deux minutes. Ouais. Mais comment est-ce qu'on fait pour se faire plaisir en supprimant finalement la viande et pour être rassasié? Parce qu'on brûle aussi des calories.
Vu qu'on vit au pôle Nord, là, vraiment, Jimmy est frigorifié.
Ah oui, il a fait 8 degrés ce matin, là, j'étais au fond du trou. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut se faire plaisir et manger des choses rassasiantes, même en supprimant la viande, qui souvent remplace, on parle souvent d'une viande et d'un accompagnement. Mais donc, la viande, c'est le plat principal quasiment. Donc comment est-ce qu'on fait pour supprimer ce plat principal qui doit être un accompagnement et remplacé par un vrai truc
végétal,
qui cale,
mais
qui cale. Hein. Oui, moi, j'ai pas envie, j'ai envie d'être rassasié et de pas avoir faim dans une demi-heure.
Dino, qu'est-ce qu'on mange?
Alors justement, on en a parlé tout à l'heure et Mélanie a testé ce week-end.
Oui, c'est vrai, je peux dire. Elle va vous la donner la recette, moi je l'ai déjà. Mais notez, attention. Hein,
le fameux chili sin carne, c'est quoi? Pour être rassasié, c'est assembler des légumes secs, par exemple des lentilles, des haricots rouges, avec une céréale, par exemple du riz.
Sauvage, plutôt, vous m'aviez dit. Hein, mélange,
alors là,
mélange.
Dans la recette, c'était quoi? C'était associer, pour la couleur et pour le plaisir, des haricots rouges avec un peu de riz rouge, un peu de riz complet, un peu de riz noir.
J'ai suivi la recette à la lettre.
Le trio qui donne de la couleur. Pour que les enfants ne voient pas tous les légumes qu'on va y rajouter, parce que des fois,
parce qu'on, on
c'est
fait
pas toujours facile.
On est un peu charlatan aussi, vous allez écouter. On cache qu'il n'y a pas de viande.
On râpe une courgette, on râpe une carotte, comme ça, elles vont complètement se désagréger.
Dans quel ordre on
cuisson.
Fait cuire tout ça? Redites-nous. On commence par quoi?
Alors, on commence par cuire le riz, enfin les trois riz.
D'accord.
On peut acheter les haricots rouges en bocaux comme vous l'avez
en vert,
fait.
Moi j'ai acheté ça au magasin
ou
bio.
Ou alors prendre un petit peu plus de temps.
Et les faire réhydrater tout ça.
Les faire cuire. Parallèlement, vous faites cuire un petit fond d'oignon avec un bon coulis de tomate, un petit concentré de tomate, des petites épices si vous voulez. Alors soit le piment d'Espelette si on veut faire léger, soit le bon chili si on veut avoir chaud justement en hiver.
Ça c'est pour Jimmy le chili. Ouais,
je note, et d'ailleurs je tiens à dire que ma femme écoute l'émission, elle m'a dit donc là elle peut prendre des notes,
bon.
Parce que moi je travaille là donc je peux pas prendre de notes, donc voilà qu'elle écoute et que
et donc,
ce soit.
Et à la fin donc on mélange tout ça.
Alors on cuit les légumes avec, donc la courgette et la carotte râpée. Beaucoup d'oignons, de l'ail. Et ensuite, on associe tout ensemble. On fait mijoter dans une poêle avec un grand couvercle.
Comme une sauteuse, c'est
comme
ça
sauteuse.
J'ai fait ça dans ma sauteuse.
Voilà. À feu très doux pour que tout fonde.
Et ça ne cuit pas très très longtemps. Hein. C'est
non,
une vingtaine,
ça va très vite.
C'est ça, une vingtaine de minutes à peu
exactement,
près.
Exactement, ça va très très vite. Et le fait d'avoir râpé les légumes, justement, ils cuisent extrêmement rapidement.
C'est la petite astuce, Jimmy. Râper la courgette, râper la carotte. Et franchement, c'est très bon. Je vous avoue, mon mari, quand je l'ai servi, il m'a dit « Elle est où la viande ?» J'ai dit « Mange d'abord, on en parle après. » Et écoutez, ça s'est finalement très très bien passé.
On peut s'en passer. Voilà, mais t'es là, vous parlez des épices.
Oui.
Et apparemment, elles ont un pouvoir particulier. Et elles prennent une place importante dans le régime flexitarien. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi?
Alors, pourquoi? Déjà, il faut le goût. Il faut rester gourmand. Ce n'est pas parce qu'on va manger des légumes, des céréales, des légumes secs, il faut s'ennuyer. Être diététicienne, moi j'ai horreur de l'ennui, j'ai horreur de se dire que c'est un régime. Il faut vraiment se faire plaisir. Et l'épice, non seulement elle va aider à digérer, entre guillemets, on a par exemple le cumin qui est extrêmement riche en fer et qui relève bien les plats.
Il ne faut pas acheter n'importe quelle épice par contre, hein, vous dites dans votre livre, hein, il faut bien les choisir.
Exactement, il vaut mieux les choisir de très bonne qualité, donc il vaut mieux privilégier
le bio. Ça se garde longtemps quand
bio.
Même, on n'en met pas des kilos et des kilos dans les plats non plus. Hein, donc
voilà,
on évite les herbes de premier prix, parce que souvent on pense que l'herbe c'est pas très grave, et donc on se dit on va prendre la moins chère. Donc mieux vaut éviter ça et prendre un truc un peu plus qualitatif.
Exactement, parce qu'il y a eu un livre qui a été écrit par un industriel et qui a mis en exergue le fait que la moindre qualité fait que...
J'ai même lu dans votre livre qu'on y trouvait des crottes de souris et des trucs assez dégoûtants dans les herbes de première qualité.
Je pense que vous avez convaincu tout le monde là.
Voilà. Donc on achète du bon curry, du bon cumin, tout ça. Voilà. Alors pour ceux qui donc vous avez convaincu, on va passer en cuisine quand même. Je crois qu'il faut quand même s'équiper un tout petit peu. Vous parliez en cuisine, il faut avoir quelques ustensiles pour devenir flexitarien. Indispensable, il faut une cocotte, il faut une poêle, comme vous avez dit, avec des bords hauts, autre chose, un cuivapeur
un cuivapeur pour pouvoir garder les qualités au niveau vitamines. Si on cuit tout dans une casserole en fonte, on va aussi relever les goûts. Hein.
Bien sûr.
Utiliser beaucoup d'ail et beaucoup d'oignons qui ont énormément de qualité au niveau de la santé.
Bien sûr. Et l'ail, c'est très bon en plus.
Voilà, l'ail, il est partout. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on regarde quel est l'aliment qui soigne, il est partout.
Vous proposez de faire votre programme sur 4 semaines. Alors, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais en gros, la première semaine, c'est d'abord les petits déjeuners. On commence à faire. Mais bon, enfin, moi, déjà, je ne mangeais pas de viande au petit déjeuner. Et la deuxième semaine, on introduit 3 déjeuners végétaux, hein, c'est ça ?
C'est ça, exactement. Et je donne aussi des conseils. Quoi choisir dans les restaurants ? C'est-à-dire qu'on est le midi dans un restaurant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir choisir pour pouvoir avoir quelques repas végétariens ?
On a presque terminé, mais on est d'accord, passer à ce mode de vie flexitarien, ça ne coûte pas plus cher en plus. Hein.
Non, au contraire, on s'est rendu compte que ça diminue le panier moyen de 21%, ce qui permet de monter en qualité d'environ presque 50% de qualité.
On mange moins de viande, mais de la meilleure.
De la meilleure, et puis on peut acheter quasiment plus de la moitié de légumes et de fruits en bio.
Donc en plus, on fait des économies, on fait du bien à sa santé.
On fait du bien au porte-monnaie, à la santé et à la planète, ne pas l'oublier.
Merci beaucoup Sarah Dudamoni d'être venue sur notre plateau. Grâce à vous, on a toutes les clés en main pour basculer sans danger vers une alimentation plus végétale, plus proche de la terre. Je rappelle le titre de votre livre, vous avez dit Flexitarien, aux éditions Erol. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on s'est intéressé à la radiographie. La radio qu'on peut passer quand on suspecte une fracture. Quel est cet examen d'imagerie ? Comment ça fonctionne ? On vous dira tout. A tout de suite sur Europe.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on parle de la radiographie, celle qu'on peut passer pour confirmer ou non une fracture par exemple. Comment cet examen d'imagerie fonctionne. Justement, Benjamin Lévesque a été vous donner la parole. On écoute son micro-trottoir.
On va dans un centre qui fait des radios et quand on a quelque chose qui est cassé, ou on veut... ouais, ce sont au niveau des os.
Pour des fractures, plutôt estomac... ventre, etc.
Pour les dents de sagesse, vérifier si elles étaient bien en place ou pas.
Moi, j'ai fait pour ma cheville suite à une chute.
Au niveau de la vessie.
On radiographie l'endroit qui est blessé et du coup, il sort derrière un document qui permet de savoir ce qu'il y a comme, comme problème.
Soit parce que tu t'es fait mal quelque part, soit tu t'es blessé et qu'on a besoin de vérifier si tes os sont en place ou pas.
Moi, je dirais que c'est dangereux parce que quand ils nous font les radiographies, ils sont derrière eux dans une pièce en dehors de nous pour pas, je pense, prendre des ondes ou je sais pas comment ça s'appelle, mais ouais, je pense que si, c'est dangereux.
Ils mettent un énorme truc en plomb pour pas que les ondes leur passent dessus. Donc je pense qu'à la longue, oui, ça doit pas être très très bon, je pense.
Ça envoie des rayons X à force si t'es exposé tout régulièrement, je pense que oui.
Alors, rayon X, Jimmy.
C'est marrant, il y a une obsession quant à ces rayons X. Hein.
X, ça fait peur déjà.
Ça fait très peur.
On se dit, rayon X, ça doit être dangereux, ça c'est sûr. Tête de mort, ouais, tout ça, on imagine.
On se rend compte qu'un examen très simple, bah, finalement, apporte beaucoup de fantasmes et d'idées reçues. Donc,
vous allez nous aider justement à y voir plus clair. Alors, c'est quoi, Jimmy, concrètement, une radiographie ? Une radiographie classique, on va dire.
Oui,
hein.
Alors, c'est un examen d'imagerie qui fait appel donc, à ces fameux rayons X qui ont été découverts au début du XXe siècle. L'idée, c'est de visualiser des parties du corps humain, donc ça peut être de l'os ou certains organes, sous l'effet de ces rayons qui vont traverser le corps et dont l'intensité va être atténuée, ces faisceaux vont être atténués en fonction de ce que le rayon va rencontrer.
Traverser, ouais, c'est ça.
Un os, un poumon, un tissu, et donc on aura des couleurs plus ou moins intense qui nous donne la radio.
Quand c'est de l'os, c'est blanc, grosso modo. Quand c'est de l'air, c'est noir. Et donc au milieu, les tissus plus mous, c'est gris. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on peut être amené à. Enfin, pourquoi on peut être amené à passer une radio ? Dans quelle indication, grosso modo ? Bon, on connaît tous la fracture, on imagine.
Oui, exactement. Après... c'est le premier. Donc si on parle de l'os, le premier, c'est la fracture. Et attention, chez les enfants, même lorsqu'ils tombent et qu'ils se font, par exemple, une entorse, il peut y avoir une fracture non visible à la radio pour laquelle on fait quand même un plâtre. Donc, ce n'est pas parce que vous avez une radio normale que vous n'avez pas de fracture. Dans ces cas-là, on peut faire des examens complémentaires comme un scanner ou une IRM. Mais donc, l'os, la fracture, mais ça peut être aussi des signes d'arthrose, des signes d'inflammation. Voilà. Au niveau du poumon, globalement, c'est pour rechercher des signes d'infection, quelle qu'elle soit. Une pneumopathie, une bronchite simple, des lésions plus importantes comme la tuberculose ou parfois certains cancers. Et puis au niveau du ventre, on a ce qu'on appelle un abdomen sans préparation, un ASP, qui permet de regarder
si... Ça fait chic, un ASP. On voit qu'il a fait médecine. Hein.
Un ASP, mais c'est la radio de l'abdomen. Radio d'accord. de l'abdomen, ça fait un peu Mélanie Gomez. Moi, je fais ASP.
Ouais, c'est plus chic.
Niveau docteur Mohamed. Et donc à ce moment-là, ça permet de regarder si vous êtes en occlusion. On fait ça notamment aux urgences. Et puis on peut visualiser certains calculs qui sont radio opaques. Et donc on verra en blanc, comme s'il y avait du calcium qui est visualisé.
Et donc, comment ça se passe une radio rapidement hein ? Est-ce que ça peut être douloureux, par exemple ?
Non,
moi, j'ai pas souvenir, j'en ai passé une ou deux fois dans ma vie, je pense. C'est que j'ai
totalement...
pas de douleur.
Hein. Non, c'est totalement indolore. Vous êtes donc dans un service de radiologie, dans un cabinet. Le manipulateur en radiologie vous donne une petite plaque que vous devez poser là où il vous dit de la mettre.
Bras,
lui, il est
exemple,
derrière,
ouais.
exactement. Lui, est derrière une vitre et
ça,
les murs.
Ça, c'est pas rassurant d'ailleurs. Moi, je me dis, chaque fois, le mec, il part derrière, c'est que ça doit être dangereux, non ?
Mais c'est dangereux car l'exposition à la longue, imaginez ça, qui fait ça 10 heures par jour. 6 examens par heure, et donc évidemment, il y a un risque d'absorption.
Pour lui.
Pour lui, ou pour finalement si la dame est enceinte, ou peu importe. Et donc là, à ce moment-là, ils sont dans une vitre. On vous dit d'inspirer si c'est une radio des poumons. On fait la photo en quelque sorte, on envoie les rayons. Les rayons sont sur la plaque, ils sont imprimés. Vous avez fait la radio et vous rentrez chez vous.
Et il n'y a pas de préparation particulière à faire pour passer une radio. Hein. On y va comme ça.
Aucune. Vous y allez tel que vous êtes. Pas besoin d'être à jeun ni quoi que ce soit. Aucune précaution à prendre, si ce n'est de déclarer si vous êtes enceinte
la
ou pas.
La grossesse, évidemment. Juste rapidement, pour répondre aux questions, est-ce que c'est dangereux les rayons X alors ou
non, la dose absorbée est très très faible et elle correspond globalement à celle qu'on peut recevoir naturellement durant 3 jours.
Donc, oui, dans la panique. Vie comme ça quotidienne.
Oui,
quoi,
exactement.
D'accord.
Donc pas de panique. Inquiétez-vous plus si vous voulez des scanners et là attention aux patients
ça,
qui veulent plein de scanners.
Hein.
Scanner du ventre, du dos, de la tête. Là c'est beaucoup plus irradiant et si on est enceinte, on peut faire une radio, c'est possible. On met un tablier et les doses sont adaptées.
Mais il faut prévenir effectivement, même si on a un doute d'être peut-être enceinte ou pas, on prévient le radiologue et ça peut effectivement bien se passer. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour tous ces conseils.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui avec notre sexologue Catherine Blanc, on va parler de drôles de fantasmes. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints, comme tous les jours, par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie.
Vous
bonjour
avez passé
Jimmy.
Un bon week-end ?
Très bon week-end, délicieux, mais ravie de vous retrouver.
Eh ben nous aussi. Alors aujourd'hui, on va répondre à la question que nous a posée Thierry, je vous la lis. Je ne sais pas pourquoi je nourris le fantasme de relations sexuelles dans lesquelles je serai soumis à l'autre. Je ressens une peur délicieuse à cet abandon. Qu'en pensez-vous ? Alors Catherine, on va tenter d'aider Thierry. Donc il y a donc ce fantasme de soumission. C'est normal ce genre de fantasme ? Je sais que vous n'aimez pas quand je dis normal, mais bon.
Ah non, ça c'est sûr, voilà. Je n'aime pas du tout. Mais bon, on fait avec. Hein.
Allez-y, dites-nous.
Alors oui, en fait, d'une façon générale, tous les fantasmes se résument à 2 types de fantasmes. Ceux de domination et ceux de soumission.
Ah bon ?
Oui, on peut être très créatif, mais de toute façon, le fond de chacun de nos fantasmes, c'est d'un côté ou de l'autre. Et en ce qui concerne celui de Thierry, c'est vraiment cette idée qui nous est renvoyée finalement de la première relation à l'autre, à savoir notre mère, où on est dans la totale dépendance à elle, qui va faire notre bonheur ou notre malheur, selon sa capacité à répondre, selon sa capacité à nous frustrer. Et finalement, c'est une recherche de cette première idée de la relation qui est à l'origine de sa relation sexuelle. Ce qui ne veut pas évidemment dire qu'il veut faire l'amour avec sa maman.
Non.
Bien sûr, ne faisons pas des raccourcis.
Jimmy ?
Merci de la précision. Mais c'est peut-être impensif, mais moi je pensais que les hommes étaient plutôt désireux, plutôt de domination. Plus que
c'est vrai qu'on imagine plus que ça.
Absolument, mais ça, pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments de soumission. Une fellation peut être un moment de soumission, comme ce peut être l'expression d'une domination, selon comment on peut voir la position elle-même. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a un pensif, qui est de dire que les hommes doivent être dominants du féminin, et ceci tout simplement parce qu'ils y sont invités, parce qu'il y a un fond d'inquiétude quant à la relation homme-femme, avec l'idée que la femme pourrait être une ogresse, parce qu'encore une fois, ça vient de ses mamans, puisque notre premier personnage
féminin, maternel,
et puis même parental, c'est la mère. Donc la première relation que nous avons à un personnage fort, c'est maman avant d'être papa. Donc il y a toujours une anxiété pour les garçons notamment, d'être mangé, absorbé, surtout qu'on sort de ce ventre maternel, donc d'être réabsorbée dans, dans la matrice maternelle. Donc, du coup, un besoin d'exprimer une domination pour se protéger.
Là, il parle de fantasme. C'est-à-dire qu'il ne dit pas « je suis déjà en train de passer à ce genre de... » Il dit « je fantasme de relations ». Alors, il ne dit même pas si donc, il est déjà en couple ou pas, ça, on ne le sait pas vraiment. Mais est-ce que ça veut dire qu'il doit passer à l'acte, essayer d'aller tester des choses un peu où il se fait dominer, quoi, tout simplement ?
Alors, ça va jusqu'à, effectivement, la grosse mise en scène de la domination. Pourquoi pas ? Puisqu'il parle aussi de délicieuses peurs. Donc, c'est quand même un peu sur le fil. D'ailleurs, dans les relations sadomaso, il y a une règle du jeu qui est donnée au départ. C'est-à-dire, je me soumets complètement, mais quand je fais...
Ou je dis tel mot rouge, code rouge, code rouge...
C'est ça, donc on arrête le jeu. Voilà, donc ça peut aller jusque-là, mais sinon, dans toutes nos façons de fonctionner l'un avec l'autre, notre façon de nous toucher, de nous embrasser au sens prendre dans les bras, on peut jouer à cette soumission, à se faire dorloter, se faire papouiller comme un nourrisson, d'une certaine manière. Et c'est pas parce qu'on joue un peu au fond de soi le nourrisson qu'on en est moins adulte et moins dans la légitimité, bien évidemment, de notre sexualité.
Jimmy ?
Bah là, Thierry ne nous dit pas s'il est en couple, avec une homme ou une femme d'ailleurs, mais est-ce qu'il devrait en parler à sa partenaire, dire voilà, ce soir, tu vas me dominer ? C'est peut-être un peu bizarre.
Jimmy, il va fort là. Ça
non, mais Jimmy, c'est le roi de la communication. Il aime la communication.
Pose la question. Ou est-ce qu'on fait comme si de rien n'était et puis on essaie, lors du rapport, de ramener un jeu ? Donc est-ce qu'on l'anticipe ?
Alors, c'est toujours compliqué parce que dès lors qu'il dit. Ce soir, tu vas me dominer, il est déjà dominant, puisque c'est lui qui donne la règle du jeu. C'est toujours compliqué.
Et il lui écrit un petit mot discreto, si il lui dit...
S'il te plaît, il demande.
S'il te plaît, je te demande à genoux.
Non, mais vous avez raison, on peut toujours se parler, bien sûr, en disant, et si on s'amusait à... Et on voit comment l'autre réagit. D'ailleurs, ça peut être très troublant pour une femme qui, tout d'un coup, se retrouve un peu en matrone et n'assumant absolument pas cette position. Fondamentalement, je crois que dans les relations, nos attitudes les uns avec les autres vont participer un peu de ça et dans la façon que l'on a de glisser dans une façon de s'embrasser, de se caresser, de s'éprouver. Ou parfois le noir aussi, parce que de faire toujours l'amour en plein jour oblige à une prise de conscience de la position dans le noir. On bidouille un peu nos histoires fantasmatiques.
Thierry dit que lorsqu'il y pense, il ressent une peur de l'abandon. C'est normal d'avoir peur et d'être excité en même temps par un fantasme. Il parle de peur. Moi, je pensais que le fantasme, ça excitait. Non, il lui a peur, apparemment.
Je crois que de toute façon, l'abandon est toujours un saut dans le vide. Mais c'est mêlé de peur.
Peur et sexualité, c'est normal.
Peur et sexualité font bon ménage, ou en tout cas arrivent à se faire ensemble. Et puis il y a aussi l'idée de toute façon que dès qu'on a peur, c'est très excitant parce qu'on va surmonter cette peur, justement.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils.
Je vous retrouve
évidemment demain avec une émission consacrée à l'AVC. Ce sera la journée mondiale contre cette urgence médicale extrême, une urgence qu'il faut savoir reconnaître quand elle survient. Ensuite, chaque minute compte pour éviter les séquelles.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.